Vous êtes toujours à l'écoute de RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net en streaming partout dans le monde. Cette émission sera rediffusée mardi matin et très bientôt téléchargeable sur le site RESF, resf.info/radio. Donc on est toujours avec Caroline Maillary qui va nous parler de la réforme de l'asile avec Yacouba Camara du collectif des Barras, et peut-être qu'on reviendra dans l'agenda rapidement sur le collectif des Barras. Donc Caro, je te laisse la parole pour nous parler de cette réforme du droit d'asile, puisque tu travailles là-dessus au GISTI, et peut-être d'un rapport avant qui va bien nous montrer dans quel état d'esprit se passe cette réforme.
Ouais, alors la réforme sur l'asile, je vais déjà commencer par être très claire pour que tout le monde puisse... puisse bien comprendre ce que c'est. C'est vraiment une mauvaise réforme. C'est une énième réforme également du système, mais qui ne va pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'encore une fois, on restreint les droits des demandeurs d'asile. Et l'état d'esprit, c'est plus d'essayer de lutter contre la fraude à l'asile que plutôt aller vers une protection pour davantage de demandeurs d'asile. C'est vrai qu'au niveau de l'état d'esprit, c'est assez restrictif, et vraiment cette lutte contre la fraude est vraiment extrêmement présente. La loi devrait être adoptée assez vite. Elle aurait déjà dû l'être, elle a été retardée, etc. Là, maintenant, on parle du mois de décembre, mais elle devrait normalement être votée en décembre. Avant le projet de loi sur l'immigration qui, lui, est repoussé vraiment mi-2015, et après, il sera certainement encore reculé.
Voilà, c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on a dissocié, puisqu'au départ, l'idée était de faire une émission sur la réforme de l'asile et la réforme du CESEDA, mais on ne parle aujourd'hui que de la réforme de l'asile.
Voilà, il y a déjà beaucoup à dire.
Oui.
Alors, peut-être que les auditeurs ont entendu un peu parler du projet de loi sur l'asile. Il y a eu beaucoup de com faites par le gouvernement. Et également, il a commandé différents rapports par des parlementaires qui sont sortis en amont du projet pour préparer la loi. Et là, encore une fois, que ce soit dans la communication du gouvernement ou dans les rapports parlementaires, on parle beaucoup de comment lutter contre les fraudeurs. Et finalement, on prend quasiment pas de propositions faites par les associations pour défendre le droit d'asile. Mais par contre, on restreint beaucoup les droits de ceux-ci. Et on met en place, on va dire, des espèces de chausse-trappe pour encore essayer d'en enlever, essayer de restreindre encore ce droit d'asile. Alors, la communication du gouvernement, elle était basée sur deux fausses idées, en deux mots. La première fausse idée, c'est l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile. Alors ça, on l'a entendu partout, je ne sais pas, tu l'as peut-être entendu aussi, c'est qu'on n'a jamais eu autant de demandeurs d'asile qui arrivent en France. Or, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que c'est faux. Dans les années 80, il y avait plus de demandeurs d'asile qu'aujourd'hui. Alors, ils nous sortent des chiffres, etc., mais je ne vais pas vous embêter avec les chiffres. À la fin des années 80, on avait plus de premières demandes au niveau de l'asile qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un discours qui est tenu, qui est faux. En plus, on relativise pas beaucoup ce chiffre, et pourtant, il faudrait le relativiser. Aujourd'hui, les 61 000 demandes d'asile, je crois que l'année dernière, il y avait eu 61 000 demandeurs d'asile, enfants compris, c'est pour ça que le chiffre est plus important. Il faut le relativiser. Par exemple, si on regarde le nombre de personnes dans le monde qui soit sont réfugiés, soit sont déplacés, soit sont demandeurs d'asile, si on regarde les chiffres du HCR, on parle de 50 millions de personnes dans le monde qui cherchent une protection. Donc avec les 60 000 demandes d'asile, c'est aussi un chiffre qu'on pourrait relativiser. Ce qu'il faut aussi dire, ce que ne dit pas le gouvernement, parce que le gouvernement dit qu'on est submergé de demandeurs d'asile, c'est que les principaux pays d'accueil des demandes d'asile, c'est pas l'Europe, c'est pas la France, etc. C'est pas du tout des pays du Nord, mais c'est des pays du Sud. C'est par exemple le Pakistan, l'Iran, le Liban, la Jordanie, la Turquie, le Kenya. Et ces pays du Sud accueillent plus de 86% des personnes qui cherchent une protection. Donc c'est des choses que j'aime bien rappeler, parce que c'est quelque chose, des chiffres qu'on a entendus dans les médias qui voilà, sont à relativiser.
C'est nécessaire de le rappeler, parce que quand on entend des choses comme la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit y prendre sa part, ça laisse supposer que la misère du monde veut venir en France, alors que c'est... Et la misère de France, eh ben, elle va où dans le monde ? Voilà. C'est ridicule.
Non, c'est ridicule. L'Europe accueille 15% des personnes qui cherchent une protection dans le monde. C'est quand même vraiment infime. Et quand on entend les discours des différents gouvernements européens et du gouvernement français, voilà, on a l'impression que la France en accueille beaucoup plus. Mais en fait, non, ça reste une part infime des gens qui cherchent une protection. Il y a aussi quelque chose qui a été mis beaucoup en avant par le gouvernement dans sa communication. C'est pour montrer que les gens viendraient... En fait, le gouvernement essaye de montrer que la plupart des demandeurs d'asile sont des faux demandeurs d'asile. C'est ça que le gouvernement essaye de faire passer comme idée. Et pour appuyer cette idée-là, il se base sur le faible pourcentage d'acceptation de l'asile. C'est-à-dire, le gouvernement explique, regardez, le pourcentage d'accord est tellement faible que ça montre bien que voilà, la plupart n'ont pas le droit à l'asile et sont donc des fraudeurs. Donc il faut lutter contre ces gens. Ça, c'est la communication du gouvernement. Mais ce qu'il faut, enfin nous, ce qu'on dit au Gisti et ce que plein de gens disent, c'est qu'on ne peut pas se baser sur le faible taux d'acceptation d'asile en France pour dire que ces personnes n'ont pas besoin de protection. Nous, on part du principe que le taux de reconnaissance d'asile en France est bas, mais c'est parce que le gouvernement français, l'OFPRA et la CNDA, interprètent mal...
OFPRA, c'est Office français de la protection des réfugiés apatrides.
Voilà. Et la CNDA, c'est Cour nationale du droit d'asile. C'est la cour d'appel de l'OFPRA.
Je suis perdue. Oui, donc tu disais, s'il y a si peu de demandes d'asile qui sont accordées, ouais. c'est parce que
l'OFPRA et la CNDA interprètent par le bas des textes, les textes, la Convention de Genève, tous les textes relatifs au droit d'asile, et que c'est une mauvaise interprétation de la France. Et c'est pour ça que le pourcentage d'acceptation est bas. C'est pas parce que les gens n'ont pas besoin de protection. C'est parce que c'est l'interprétation qu'on fait des textes qui est mauvaise. Et que le système d'asile en France est mauvais.
Et il y a une chose qui est rigolote, si c'était pas dramatique, ce serait rigolo. Quand on étudie un petit peu les demandes d'asile, on se rend compte que les raisons pour lesquelles les demandeurs sont déboutés, c'est du copier-coller, et qu'on a exactement les mêmes raisons sur tous les dossiers. C'est la même raison, qu'on appelle ça récit convenu et manque de précision.
Oui. C'est au niveau de l'OFPRA, hein, c'est vrai que nous, on est très critiques hein, des décisions que peut rendre l'OFPRA ou des décisions que peuvent prendre la Cour nationale du droit d'asile. Et c'est vrai que quand on regarde les décisions, il y en a beaucoup qui sont stéréotypées. Et c'est vrai que pour nous, le système tel qu'il est aujourd'hui n'est pas bon. Je voulais aussi dire juste deux mots, parce que vraiment, il n'y a pas besoin d'y passer plus de temps, sur le rapport Ciotti, qui est paru il y a quelques jours, hein, il me semble que c'était en novembre ou fin octobre. À chaque réforme sur l'asile, mais aussi sur l'immigration, mais là, restons sur l'asile, il y a un parlementaire, alors là, il a été bien choisi, hein, Éric Ciotti, qui est quand même connu pour avoir des discours plutôt radicaux. Donc c'est un député UMP, hein, des Alpes-Maritimes, qui a publié donc un rapport choc sur l'asile en France. Donc il y a toujours, à chaque réforme, il y a toujours un rapport choc qui prend des chiffres, les amène comme il veut et explique que voilà, tous ces gens viennent en France pour bénéficier de tout ce que la France leur donne. Or, quand on connaît la situation des demandeurs d'asile en France, notamment, on sait que c'est pas pour ça que les gens viennent en France. Hein, faut rappeler que la moitié des demandeurs d'asile sont pas hébergés, que l'allocation temporaire d'attente, qui est l'allocation qui est versée aux demandeurs d'asile, est ridiculement basse, qu'ils n'ont pas le droit au travail, voilà, qu'ils n'ont finalement que très peu de droits. Donc voilà, il y a toujours un rapport comme ça pour faire croire que tous ces gens sont venus pour profiter. Mais quand on connaît la situation, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de choses voilà, qui peuvent leur être attribuées. Pour parler peut-être davantage de cette, enfin plus sur cette réforme de l'asile, cette réforme, elle est menée parce que la France doit se mettre en conformité avec des textes européens. Donc c'est pas seulement parce que la France a voulu changer ce système d'asile, mais parce que il y a des directives et des règlements au niveau européen qui sont obligatoires, et donc la France doit s'y soumettre. Alors la France a décidé de transposer notamment des directives par le bas, c'est-à-dire qu'il y a des dispositions qui sont favorables, d'autres qui le sont moins. La France a plutôt fait le choix de choisir les dispositions moins favorables et en tout cas de ne pas montrer très haut dans les améliorations qu'elle aurait pu apporter au sort des demandeurs d'asile en France.
Et puis il ne faut pas se cacher derrière l'Europe parce que la France a quand même voté pour l'Europe ces réformes. Enfin, ces directives européennes ont été aussi amenées par la France.
Oui, tout à fait. Mais après, il y a des choses qui auraient pu être prises dans ces directives européennes qui étaient favorables et qui n'ont pas été prises. Par exemple, on parlera tout à l'heure, peut-être si on a le temps, du recours hein, contre les décisions d'asile qui restent très, très restrictifs, etc., alors qu'ils auraient pu en faire un véritable outil voilà, pour mieux protéger les gens, les demandeurs d'asile. Alors, je vais vous parler tout de suite des quelques améliorations qui ont été apportées dans ce texte-là. Ça va être très, très court. Elles sont tellement noyées dans un flot de régression. Mais il y a quand même deux choses à noter et qui peuvent intéresser les gens. C'est-à-dire que la loi prévoit d'abandonner le système des domiciliations administratives pour les demandeurs d'asile. Donc les demandeurs d'asile n'auront plus besoin de trouver une domiciliation avant d'aller à la préfecture. C'est quelque chose qui était très difficile à trouver. Hein. Toutes les associations qui domicilient sont débordées, etc. Donc c'est des délais en plus où la personne doit attendre avant l'enregistrement de sa demande d'asile. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, c'est vraiment un détail parmi tant de choses. Et l'autre élément favorable que j'ai envie de dire, c'est la prise en compte de la composition familiale pour l'allocation. Hein. Donc j'en parlais tout à l'heure de l'ATA, l'allocation pour les demandeurs d'asile. Donc la nouvelle loi prévoit une augmentation en fonction de la composition familiale. Voilà.
Voilà, donc ça c'est... Ça veut dire quoi, cette prise en compte de la...
Une augmentation de l'allocation en fonction du nombre d'enfants.
Du nombre d'enfants. Voilà. Et sinon le petit peu que j'ai vu de cette réforme, c'est que c'était une formidable machine à exclure les gens de la réforme et en organisant, comme on dit, on n'exclut pas, hein, on ne fait que des reconduites.
Oui, alors là, c'était vraiment les quelques éléments favorables, mais... la plupart sont plutôt des régressions. Et surtout, on note vraiment plus de contrôle des demandeurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup dans toute la réforme. La première chose qui est alarmante, c'est la multiplication des procédures accélérées. Alors, c'est un peu technique, donc je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail. Mais les procédures accélérées, c'est on essaye de mettre des gens dans ces cases-là, ce qui fait qu'ils ont moins de temps pour préparer leur demande d'asile et il ne bénéficie pas non plus de la même écoute. C'est-à-dire à partir du moment où on est placé dans cette procédure-là, on est un peu moins crédible que les autres, si vous voulez. Et ces procédures accélérées, qu'on ferait mieux d'appeler procédures expéditives, vont se multiplier. Hein. Il y a beaucoup plus de cas qu'avant.
Alors, quand on dit procédure accélérée, on pourrait avoir l'impression que c'est une bonne chose parce que ça va plus vite. En fait, c'est une accélération pour accorder un refus. Il y a très peu d'asile accordé en procédure accélérée.
Alors, aujourd'hui, ça s'appelle procédure prioritaire, mais demain, ça s'appellera procédure accélérée. Effectivement, ce n'est pas les mêmes conditions d'examen. Et nous, on a peur que... Enfin, c'est évidemment ce qui va se passer. C'est que de plus en plus de gens rentrent dans ces catégories. Pour vous donner deux, trois exemples, rentreront dans ces catégories de procédures, je préfère dire expéditives. Par exemple, tous les gens qui viennent de pays tiers sûrs. Donc les pays tiers sûrs, c'est les pays... c'est une liste qui est fixée par la France. Aujourd'hui, il y a 16 pays. Et c'est des pays que la France considère comme étant démocratiquement corrects. Et donc, elle considère que les gens qui ont ces nationalités-là n'ont pas de raison de demander l'asile. Donc, ces personnes seront automatiquement placées dans cette procédure expéditive. Il y a également les gens, les demandeurs qui auront présenté des faux documents. Voilà. Alors qu'un demandeur d'asile n'est pas obligé de présenter un document d'identité, etc. C'est la seule personne qui peut voyager sans document. Et là, les demandeurs qui auront présenté des faux documents pourront être placés en procédure expéditive. Ou alors, autre cas, un demandeur qui aura dissimulé des informations ou qui aura fait des fausses déclarations. Voilà, ça c'est des exemples.
Il faut dire que quand on demande l'asile, hein, qu'on est obligé de fuir, on fuit avec ce qu'on peut. Et si on a besoin de faux papiers pour traverser une frontière, eh bien, on prend des faux papiers. Et jusqu'à présent, on était protégé par la Convention de Genève de 1951. Ouais. Donc là, on remet en question la Convention de Genève.
Oui, alors elle est toujours là. Mais c'est vrai que les gens qui donnent des faux documents, etc., courront ce risque d'être placés en procédure accélérée. Mmh. Il y a aussi un cas qui est vraiment inquiétant, c'est la loi prévoit que les personnes qui feront une demande d'asile après être entrées depuis plus de 90 jours en France seront automatiquement placées en procédure accélérée. Alors, je ne sais plus si c'est automatique ou voilà, mais... C'est des gens qui seront là depuis plus de 90 jours. Et ça, ça a été notamment fait pour les gens à Calais, par exemple. Hein, c'est des gens qui sont là depuis plus de 90 jours et qui, si au final, sont poussés à demander l'asile en France parce que, pour de nombreuses raisons, ils n'arrivent pas à passer en Angleterre, on pourra les placer en procédure accélérée. Voilà, donc ça, c'est tout un tas de petites exceptions comme ça, mais qui, au final, multiplient les cas de procédures expéditives. La loi prévoit aussi carrément des cas d'irrecevabilité, où les gens n'auront même pas un recours suspensif s'ils sont placés dans la case « demande irrecevable ». C'est par exemple les demandes de réexamen sans ce qu'on appelle éléments nouveaux. C'est très très discutable parce que souvent les demandes de réexamen sont très mal accueillies et donc très mal examinées. Et donc là, c'est des demandes qui pourront être classées automatiquement de manière irrecevable. Et il y a également des cas de clôture. Ça, c'est des cas aussi qui se multiplient. C'est assez grave étant donné que c'est des gens qui ne pourront même pas déposer une demande d'asile. C'est par exemple le cas d'une personne qui ne fournirait pas une information importante comme sa vraie identité ou une personne qui n'a pas introduit sa demande à l'OFPRA dans les délais. Et ça, quand on connaît un petit peu les demandeurs d'asile en France... On sait que des gens qui loupent la date du dépôt à l'OFPRA, ça arrive très fréquemment. Et là, la loi prévoit de clôturer carrément tous ces dossiers-là sans aucun recours possible.
Et les délais, c'est quoi ? C'est
Alors, le délai, c'est 21 jours.
21 jours.
À partir du moment où on nous donne le cahier OFPRA, ce qu'on appelle, ouais. Qu'il faut remplir, etc., on a 21 jours pour le rendre. Encore faut-il être accompagné par une association ou par les Français ou connaître des gens qui s'y connaissent un peu en asile, parce que c'est un délai assez court que bon nombre de demandeurs d'asile laissent passer parce que voilà, ils ne comprennent pas forcément toute l'importance de ce délai. Il y a aussi quelque chose de scandaleux dans cette réforme, c'est on peut clôturer une demande d'asile si un demandeur a fui ou a quitté son hébergement. C'est-à-dire que la loi prévoit un système d'hébergement directif. C'est déjà plus ou moins le cas, mais là, on n'aura vraiment plus le choix. C'est-à-dire qu'on va nous imposer une ville et un endroit pour habiter, et avec un système de contrôle de sortie assez poussé. C'est-à-dire qu'il faut prévenir pour toute sortie, etc. On peut parler presque d'une assignation à résidence. Et des gens qui soit partiraient sans prévenir de leur hébergement pour aller visiter quelqu'un ou pour travailler, mais qui n'ont pas prévenu, pourraient se voir clôturer leur demande d'asile. C'est vraiment quelque chose de très très grave qui est dans le projet de loi et qui vont faire certainement perdre toute chance d'obtenir l'asile à bon nombre de personnes.
Okay, donc la personne sera obligée de rester et de rester à la maison, de rester dans son cadavre, dans son foyer.
Voilà. Et pour toute sortie, elle devra demander au préalable l'autorisation.
Ok, donc pas possible d'aller boire un coup avec les copains.
Il faut prévenir.
Sans prévenir.
Voilà.
Donc on peut pas improviser.
Non, on peut pas improviser. Et c'est vraiment quelque chose qui nous inquiète beaucoup. Surtout qu'au niveau de l'hébergement. Voilà, c'est un vrai problème. Les gens n'ont pas vraiment le choix de leur hébergement. Donc, voilà, ils seront amenés à accepter sans rechigner, quoi.
Voilà, et pour aller très vite, parce que maintenant, je vois que les oreilles du front commencent à s'installer. Donc, notre émission est presque terminée. Donc, un petit mot pour conclure, peut-être, parce que j'aurais bien continué. Il faut qu'on continue.
Non, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous enverrai juste, pour vraiment les gens qui sont intéressés, il y a la Coordination française pour le droit d'asile, la CFDA, qui a fait une analyse assez poussée de ce projet de loi. Et voilà, j'aurais bien voulu avoir le temps de parler des déboutés.
Une minute sur les déboutés.
Allez, une minute. C'est vraiment les déboutés de l'asile, donc ceux qui ont vu leur demande rejetée. Là, ils sont vraiment pointés du doigt dans cette réforme. Ils ont une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire spéciale. Quand les autres ont 30 jours pour se défendre, eux, ils n'auront que 7 jours. Donc c'est quand même quelque chose de très très court pour se défendre. Le gouvernement a parlé aussi de centres semi-fermés pour mieux expulser les déboutés. Il a parlé aussi, dans la loi, il y a la possibilité de placer les déboutés en assignation à résidence, si on ne peut pas les expulser de suite. Et quelque chose aussi qui est effrayant, c'est l'interpellation à domicile, qui est dans la loi, qui était jusque-là réservé à toutes les procédures pénales, mais qui là est permis pour les déboutés de l'asile, avec une possible intervention de la police dans les lieux d'hébergement. Et donc ça, c'est très très grave.
Voilà, on a eu quelques tests de foyers comme ça, notamment à Rennes, je crois. Voilà.
Voilà, rapidement.
Donc on va peut-être présenter notre journal, je crois, que tu voulais réagir, mais très très vite, hein, Yacouba, parce que tu as juste le temps de présenter notre agenda. Non. Bon, donc 30 secondes pour conclure, et puis on passe à l'agenda.
Voilà. Donc non, peut-être pour le collectif Bara, rappeler que la prochaine audience, c'est le 3 février. Et qu'en attendant, le collectif va essayer de voir au niveau des papiers du logement, mais que le 3 février, on appelle tous les gens à venir soutenir le collectif au tribunal de Pantin.
Voilà, donc on en reparlera de toute façon à ce moment-là. Donc tout de suite, notre agenda...